prévoyez de m'excuser pour commencer de n'être ni philosophe, ni théologien, et peu familier de l'œuvre d'Henri Corbin, mais voilà que je dois en plus m'excuser d'un retard assez inqualifiable. Et donc je suis désolée d'arriver ainsi un peu en courant. Alors, vous remarquerez que donc j'ai le titre de mon exposé a légèrement changé en lisant justement ce que les textes de Corbin sur le monde imaginal, sur le il m'a semblé que on pouvait probablement définir pour la Chine également avant de parler des êtres qui parcourent ces mondes, de parler peut-être des mondes qui sont effectivement ne sont pas des utopies, sont des mondes à la fois réels mais pas non plus irréels et qui abondent en fait dans la littérature chinoise. Alors je vais ici, de manière probablement peu justifiable, parcourir des siècles et des siècles, mais vous verrez qu'on retrouvera certaines constantes en fait dans leur au fil de cette de ce petit exposé qui sera basé essentiellement, étant donné ma provenance, sur des sources non seulement chinoises mais avant tout littéraires. Et il est vrai que je crois qu'avec le monde chinois, nous nous trouvons tout de même dans une situation relativement différente de ce que l'on peut voir entre le monde occidental et le monde le monde persan, et même le monde indien. Finalement, les spéculations sur la réalité, l'irréalité, le rôle de la subjectivité dans la création des mondes est arrivé, est bien arrivé en Chine, mais par une doctrine que vous me permettrez ici de qualifier d'occidentale, qui était le bouddhisme. Elle l'était bien sûr pour la Chine. Et je vais ici plutôt vous... donc je vais décider de parler dans un premier temps de lieux. Et tout spécialement du lieu qu'est la montagne, puisque à bien des égards, la montagne en Chine me paraît répondre à certaines des définitions de Corbin pour ces lieux qui ne sont ni des utopies, ni des lieux imaginaires, ni complètement des lieux réels. Et d'ailleurs, on va retrouver cela dans l'espace chinois de manière assez flagrante. Et j'essaierai ensuite, dans un second temps, de vous parler des allers-retours, hein, des voyages que font des êtres du monde ordinaire vers ces lieux, et puis un retour, et là je retrouve le thème initial de mon exposé, des venues, des apparitions que font des êtres issus de ces lieux extérieurs dans la réalité quotidienne. Alors, pour vous parler d'abord un peu du cadre de l'espace chinois, vous savez que la Chine est un pays raisonnablement montagneux, mais pas tellement plus que d'autres. Il y a des grandes plaines également, mais il y a un rôle symbolique de la montagne qui est très important. Alors, si on remonte à l'Antiquité, mais ça je serai relativement bref, il y a une géographie des lointains qui effectivement pose des lieux que personne n'avait jamais vus en Chine. Ainsi, l'espace est défini comme étant entre les quatre mers. La mer occidentale et la mer septentrionale sont très largement en Chine des constructions de l'esprit. Et nous avons également à l'ouest, hein, une montagne qui s'appelle le mont Kunlun, hein, qui est dont le nom d'ailleurs résonne avec beaucoup d'autres termes qui en Chine évoquent le chaos créateur et le Kundun, hein, et où habitent de très longue date, là nous sommes dans des images d'art funéraire qui ont environ 2000 ans, hein, réside un personnage que l'on appelle Si Wangmu, la reine mère d'Occident, qui est une divinité féminine et dont vous remarquerez qu'elle est accompagnée d'êtres variables et de certains êtres animaux que nous retrouvons tout à l'heure dans les apparitions, notamment si vous regardez dans l'angle supérieur droit le renard à neuf queues, qui est un personnage que nous retrouverons plus tard intervenant même dans l'histoire chinoise à certains moments. Voilà encore la reine mère d'Occident. Alors ce que j'aurais voulu, je ne voudrais pas m'attarder trop longtemps sur les lointains, mais parler aussi des proches, et notamment du rôle que joue la montagne dans les représentations. La montagne est vue comme omniprésente, même un peu au-delà de sa présence physique réelle. Il y a donc dans l'espace chinois, il y a ce qu'on peut appeler les montagnes cardinales. Il y a les cinq pics, hein, qui sont des montagnes qui sont placées à l'est, à l'ouest, au nord, au sud et au centre, hein, qui sont des montagnes bien réelles, et qui sont depuis longtemps des lieux religieux importants, notamment le pic de l'est, le mont Taishan, qui existe bel et bien dans la province du Shandong, qui est qui était une destination importante des sacrifices royaux à l'époque pré-impériale, avant 221 avant Jésus-Christ, et qui a garder son statut de lieu sacrificiel important, hein, à l'époque impériale. Cette idée que ces montagnes devaient être présentes pour les sacrifices impériaux était importante. Et par exemple, dans une thèse soutenue récemment, une jeune chercheuse a remarqué que vers le XIIe siècle, une dynastie qui ne contrôlait qu'une partie de l'espace chinois avait dû recréer les montagnes du sud qu'elle ne contrôlait pas de façon symbolique afin que l'empereur puisse les visiter et y sacrifier. Au-delà donc de cette manière de créer et de recréer les montagnes, et il y a aussi évidemment ces montagnes que l'on crée de toutes pièces. Et alors je vous renverrai au très beau texte déjà ancien de Rolf Stein, hein, sur le monde en petit, qui parle justement de cette façon qu'on a en Chine de créer partout des lieux justement qui sont des montagnes en miniature, des fausses montagnes, elles s'appellent ainsi dans la langue moderne, mais dont le rôle symbolique est largement démontré par son omniprésence, et notamment le jardin chinois est une structure qui est basée énormément sur les montagnes. Or justement, si l'on songe à la manière de créer des espaces qui ne sont pas ni vraiment réels ni vraiment rêvés, on peut penser à un texte qui n'est pas de l'ordre du religieux, qui est un texte qui a été écrit par Sima Qiang, qui fut un grand poète de cour à l'époque de la première dynastie impériale. Et il a vécu entre 179 et 117 avant Jésus-Christ. Et ce texte s'appelle le Shanglin Fu, la rhapsodie du parc impérial. Enfin, le terme de rhapsodie, j'ai mis un demi-guillemet car c'est une traduction relativement malencontreuse, mais il n'en existe pas vraiment de très bonne, elle est disons conventionnelle. Dans ce texte, on voit trois personnages, chacun représentant une principauté de l'Empire, venir vanter le parc de son souverain. Et finalement, un troisième personnage vient et va décrire le parc impérial. Et cette description du parc impérial est une véritable création à la fois littéraire et verbale. Le genre de la rhapsodie, le genre du fou, est quelque chose qui regorge d'images sonores, d'onomatopées, de termes parfois fabriqués sans signification précise, mais fabriqués pour les besoins de la pièce que l'on veut exécuter. Or, ce qui est décrit, c'est effectivement une exploration du parc impérial, mais ce parc impérial, on s'aperçoit qu'il est un paysage en grande partie sauvage, en grande partie montagnard, et il est à conquérir, et il est immense, en fait il recouvre à peu près le monde. Et l'empereur va y entrer et s'y livrer à une chasse. Et se livrant à cette chasse, il va commettre un grand massacre d'animaux et en même temps asseoir son pouvoir sur le monde entier, alors qu'il n'était au fond théoriquement question que de jardin. Alors c'est un des thèmes que l'on va retrouver autour de la montagne. Et alors là je fais un saut tout à fait probablement assez illégitime vers une série de textes et de peintures. Là nous sommes plutôt au XIIe siècle. Oui, on a pardon pour ces glissements. Il y a une série de notamment de textes, mais je vais vous montrer quelques images qui s'appelle La fouille des montagnes, Shao Shan Tru. Et il s'agit là encore d'une expédition de chasse dans un vieux montagnard. Mais comme vous allez le voir, cette chasse est assez étrange. Son chef est le dieu Orlang, qui est une divinité, un guerrier enfant, et ses troupes sont constituées de créatures démoniaques œuvrant pour le bien. Et ce qu'elles vont chasser dans les montagnes, c'est tous les êtres qui y habitent, qui sont des êtres démoniaques. Mais ces démons n'ont pas l'air de démons. Et ainsi, les femmes que vous voyez paraître là sont des démones. Et elles sont dûment capturées par ces soldats au service de Orlang qui ne sont pas des démons puisqu'ils œuvrent au service du bien en dépit de leur apparence tout à fait terrifiante. Vous voyez. Et donc, nous retrouvons encore ce thème hein, de la montagne comme espace à conquérir par une autorité qui fut-elle impériale ou divine. Alors, un autre thème très important dans cette construction de l'espace montagnard dans toutes ces dimensions imaginales, peut-être spirituelles, c'est la montagne en tant qu'un lieu de refuge et un lieu de ressources. Alors, il n'est pas besoin de revenir sur l'importance de la montagne dans la peinture chinoise. Je n'en donnerai qu'un seul exemple, mais les exemples se compteraient par dizaines de milliers. Ce qui apparaît assez rapidement, c'est que on peut considérer la montagne, mais pas la montagne lointaine, pas celle qu'on va chercher au cœur de l'Himalaya, la montagne qui se trouve tout près de l'espace de la ville, tout près du village, non loin, mais de manière assez... hors des frontières, hors des limites. Or, c'est un lieu qu'on en a tout avantage à explorer. On peut y échapper aux autorités de l'Empire et aux troubles du temps. On peut y échapper à la police réelle, mais aussi à la police divine. Et une des manières, il y a des textes qui invitent ceux qui veulent rechercher l'immortalité à laisser une apparence, prendre une apparence de mort, changer de nom et se réfugier en montagne, car les autorités divines n'ont pas juridiction sur ce lieu, un peu hors juridiction. Et au IVe siècle, dans un texte d'un important penseur du taoïsme qui est Dorong, qui a écrit donc un traité qui s'appelle le Bao Puzi, le maître qui embrasse la simplicité, il y a un passage qui invite à, qui s'appelle le passage des ascensions et des traversées, et dans lequel l'adepte est invité à entrer en montagne, avec une rhétorique tout à fait à la fois séduisante et menaçante, vous voyez, que l'on veuille composer des remèdes pour accomplir la voie, ou encore se retirer du monde pour échapper aux troubles, on ne peut s'abstenir d'entrer dans les montagnes. Mais parmi ceux qui ne connaissent pas la méthode pour se faire, beaucoup rencontreront malheur ou trépas. Car, comme dit l'adage, au pied du mont Roi, les eaux s'empilent en tas. Le mont Roi étant le pic de l'ouest, non loin de Siam, qui est effectivement, réellement, dans le monde réel, tout à fait escarpé et périlleux. Cela nous rappelle qu'à maîtriser un seul savoir particulier, on ne peut tout appréhender. Ils ont trouvé une mort violente alors même qu'ils avaient pour intention de survivre. Grandes ou petites, les montagnes abritent toutes des dieux. Dans les grandes montagnes, il y a de grands dieux, et dans les petites, de petits dieux. Ceux qui entrent en montagne sans posséder les techniques nécessaires iront à coup sûr à leur perte. Ils pourront contracter des maladies, se voir infliger des blessures, ou encore, de frayeur, perdre tout repos. Tantôt, ils verront scintiller des lumières, ou entendront des bruits surnaturels. Il leur arrivera que de grands arbres se déracinent sans qu'il y ait un souffle de vent, ou que les parois rocheuses s'abattent sans raison, les écrasant. Il leur arrivera que, frappés de folie, ils se jettent en courant dans des précipices. Il leur arrivera de rencontrer tigres, loups, serpents ou encore malfaiteurs, car on ne saurait entrer à la légère dans les monts. Alors cette entrée en montagne est présentée comme effectivement tout à fait à la fois essentielle et dangereuse, périlleuse, mais la montagne est en quelque sorte une mine, un endroit où on peut retrouver des ressources tout à fait indispensables au progrès, et notamment au progrès de celui qui veut voyager vers l'immortalité, celui qui veut en son corps finalement fortifier son corps pour ne plus être sensible au passage du temps et à la mort. Alors, on ne s'étonnera pas que, alors là je saute encore quelques siècles, dans les traités finalement de ce qu'on appelle l'alchimie intérieure, qui consiste en fait à considérer le corps comme le creuset de l'alchimie dans lequel on va transmuer finalement les énergies et les matières qui le composent pour le renforcer, et bien que ce soit à nouveau l'image de la montagne que l'on retrouve dans ces cartes du corps qui sont un paysage composite, complexe. Il y a des monts, des escarpements, des plaines, beaucoup de personnages, vraiment beaucoup de divinités, des divinités néfastes et hostiles, et des divinités bienfaisantes, et dont l'adepte devra travailler avec qui il devra composer, et qu'il devra donc enrôler à son service afin de sortir des dangers de l'existence et d'aller vers l'immortalité. Vous voyez, ces peintures, ces dessins sont tous des représentations physiques du corps. Car en effet, la montagne est vue comme ce qui pourrait être le lieu essentiel du travail de l'alchimiste. Et là, vous avez une image qui représente donc un adepte face à son four alchimique. Et le décor est un décor montagnard. Alors, dans l'histoire de l'alchimie chinoise, on aura, disons, jusqu'au 7e, 8e siècle, une alchimie qui est essentiellement tangible et physique, qu'on appelle l'alchimie extérieure, avec un vrai creuset, un vrai mortier, des vrais minéraux, des simples, et puis les rites qui accompagnent le travail de l'alchimiste prendront de plus en plus de place pour que finalement on arrive à ce qu'on appelle cette alchimie intérieure, où l'on se débarrassera finalement des éléments, des outils, des ustensiles, pour n'utiliser plus que les techniques psychophysiques et méditatives. Et là encore, donc, l'image est volontairement celle de de la montagne. Alors, effectivement, si la montagne occupe ce rôle important, c'est qu'elle est justement la demeure des siennes. Alors, ces siennes, la traduction la plus fréquente est immortelle, puisque c'est une de leurs caractéristiques, ce sont des gens qui ne sont plus sensibles à la mort. Récemment, un collègue américain qui a énormément travaillé sur la question, qui s'appelle Robert Campbell, préfère la traduction de transcendence, parce que pour lui, ces personnages sont transcendants dans la mesure où ils sont dans des êtres humains qui ont su s'élever, notamment grâce à cette entrée dans les monts. Alors, les deux traductions doivent être, je pense, être gardées à l'esprit. Nous avons dans les textes les plus anciens, là nous sommes ici dans le Zhuangzi, le livre de Maître Zhuang, vous avez probablement entendu parler, dépeint les immortels comme des êtres, vous voyez, je ne vous inflige pas ma lecture, mais je vous laisse regarder ce texte, comme des êtres qui sont effectivement radicalement séparés des êtres humains. Ils sont des êtres à part et ils se caractérisent aussi par une indifférence totale à l'égard du monde humain. Ils ne s'en occupent pas du tout. Vous voyez, dans ce passage-là, ils ont, à partir de leur déjection, on pourrait fabriquer un Yao et un Shun. Comment se soucieraient-ils les affaires du monde? C'est un petit sacrilège, comme est Zhuangzi. Yao et Shun sont les empereurs sages et fondateurs de la civilisation chinoise. Donc ils sont ici réduits à presque rien, et ces personnages sont d'abord vus comme ne s'occupant pas du monde humain. Et d'ailleurs, dans une première figuration, ils ne sont pas représentés comme des êtres humains. Ils sont certes anthropomorphes, mais ce sont des espèces de... Vous voyez, ce sont voilà une statue qui est d'époque Ram. Ils ont ces espèces d'oreilles démesurées, presque nichéennes, si vous voulez bien me permettre, et des ailes, et des êtres, et des plumes qui recouvrent une partie de leur dos et leurs jambes. Et on les appelle des êtres ailés. Vous voyez, ils sont... dans des bas-reliefs funéraires, ils sont effectivement en train de jouer à un jeu de société. Là, ils sont représentés comme maigres, diaphanes, ont des montures impossibles, hein, des cervidés. Et ce premier cas de figure des siennes, qui sont une espèce d'idéal hors d'atteinte, au fil du temps, vont aller vers la notion plutôt de sienne jeune, c'est-à-dire d'un sienne qui est un être humain qui, lui, a réussi en entrant dans la montagne, en s'y perdant, de s'assimiler à ces personnages. Et si l'on regarde, oui, voici maintenant un personnage déjà beaucoup plus anthropomorphe, et si l'on parcourt un peu en cavalcade, si on emprunte un dragon pour se faire, vous allez voir des êtres qui sont effectivement, cette fois-ci, sont bel et bien des hommes, hein, et ils sont dans les montagnes, ils ont des montures effectivement non réalistes, disons, hein, tortues, ils sont compagnons des animaux sauvages, ils sont parfois vêtus, hein, de plumes ou de feuilles, hein, ils ont un aspect donc comme ceci, hein, ils sont un aspect dans le sens où ce sont des créatures sauvages, et ce sont eux les immortels. Mais ils ne sont pas tous des hommes, vous verrez, ici avec ce personnage de féminin, la plupart sont plutôt masculins. Alors voilà un petit peu le cadre de cet espace montagnard qui garde un statut tout à fait particulier. Il y a par exemple, si je me réfère à des développements récents, il y a par exemple deux écoles de Chine du Sud, de maîtres de rituels taoïstes, qui se réfèrent à une montagne, l'école de Lushan et l'école de Meishan, le mont Lu et le mont Mei, qui, dans l'un comme dans l'autre cas, ne sont pas des montagnes situables sur l'espace géographique réel, mais ce sont des montagnes dont se réclament comme leur lieu fondateur ces écoles de prêtres, hein, qui sont des prêtres qui sont par ailleurs mariés, vivant dans la société, mais qui se rattachent lointainement, donc disons, à cet espace montagnard ici-là recréé. Alors je laisse aux corbinistes de décider si l'on est dans un lieu imaginal ou dans un lieu symbolique ou imaginaire ou au contraire réel. Voilà un petit peu pour explorer ces quelques... pour poser un peu les décors. Et je peux encore maintenant vous y emmener vers les allées et retours. Alors, je voudrais d'abord parler des récits, hein, qui vont montrer un personnage venu du monde quotidien effectivement effectuer un voyage vers ces lieux montagnards. Alors le premier récit que j'ai sélectionné n'est pas à proprement parler une entrée en montagne, mais c'est une entrée dans un jardin. Nous sommes tout à fait dans cet espace du microcosme que peut représenter le jardin, et vous allez voir à quel point il s'agit d'un microcosme. Un homme, alors c'est un récit du 9e siècle de notre ère, qui a été par la suite décliné dans bien des genres littéraires. Il apparaît dans une nouvelle langue classique d'époque 30. Un homme boit avec ses amis et s'endort. Et s'endormant, il se voit confusément descendre sous l'arbre qui se trouve au centre de son jardin. Et là, il est accueilli par une escorte d'hommes d'armes qui l'emmène jusqu'à un royaume. Et dans ce royaume, il est très bien accueilli et il fera carrière. Il deviendra le gendre du roi de ce royaume. Il sera nommé gouverneur d'une province périphérique. Il mènera une guerre victorieuse contre une armée ennemie qui attaque. Il connaîtra au fil du temps la douleur et le malheur. Sa femme, la fille du roi, son enfant mourront dans une épidémie, et il est finalement congédié par ses beaux-parents qui lui disent qu'il est temps de rentrer chez lui, mais je suis chez moi. Et en dépit de ses refus, on le ramène, l'escorte le reprend, et le pousse, et le houspille, et le réveille. Et il n'avait fait que dormir. Il vient de vivre une vie entière dans un songe, mais ce songe a un cadre très particulier qui peut être exploré. Il va dans le jardin où il s'est vu descendre, il creuse sous l'arbre et découvre sous l'arbre de grandes fourmilières. Il voit ses beaux-parents, le roi et la reine des fourmis, il voit la province du rameau du sud, qui est effectivement un bien concret rameau d'un arbre dont il fut le gouverneur, et il comprend aussi par des choses qu'on lui a dites qu'il a également visité le pays des morts, car il sait que dans ce pays des fourmis où il a vécu une existence, habitait son père décédé, on le lui a dit. Donc c'est une descente, un insert d'une autre vie, c'est une descente en même temps au pays des morts, et c'est aussi une initiation effectivement sur le caractère illusoire, onirique et transitoire de l'existence. Alors cette histoire qui est un rêve infernal m'amène à vous dire deux mots sur l'étrange omniprésence de la catabase. Vous parlez besoin simplement du voyage aux enfers, de la descente dans les enfers qui traverse beaucoup de récits chinois à partir du 9e 10e siècle jusqu'à la fin de la période impériale, donc au début du 20e siècle. Ce sont les romans dont je suis spécialiste, et il est extrêmement frappant de voir à quel point un moment crucial d'un roman, un personnage va faire l'expérience du voyage aux enfers. Alors c'est une figure universelle, mais sa constance est assez impressionnante dans les récits chinois, comme si à un certain moment le personnage devait entrer dans ce lieu, ou bien entendu il va revenir plus fort et fort notamment de révélations. Un jeune homme qui est un vaurien, qui est méprisé de tous, va mourir au cours d'une bêtise enfantine et descend aux enfers. Aux enfers, on lui apprend qu'il est en fait le fils de son protecteur, ce qu'il ne savait pas. On le rend à la vie et il va devenir, à la suite de ce voyage, le héros principal d'une saga militaire. Je vous raconte là un roman des années 1620. Il y a cette. Alors, est-ce que je vous entraîne loin des montagnes? Non, parce que les montagnes sont très souvent vues comme la porte des enfers. Au premier lieu, le mont Traishan, mais finalement, un peu toutes les montagnes. Et dans ces récits où apparaissent des périples infernaux, on est frappé par le fait que d'un seul coup, là, dans une colline, dans un lieu, la porte des enfers s'ouvre et va donner libre passage au personnage qui va donc faire ce parcours. Et alors, puisque l'on parle donc de voyage aux enfers, je voudrais m'arrêter avec vous quelques instants sur un texte que vous connaissez peut-être, mais dont je ne sais pas si vous connaissez toutes les dimensions. C'est la pérégrination vers l'ouest, qui est à la fois voyage aux enfers, voyage au paradis, qui est à la fois voyage lointain, mais aussi pérégrination proche. Les éléments, les commentaires, les titres de chapitres, tous les éléments paratextuels pointent sur le fait que ce voyage n'a jamais peut-être été autre chose qu'un voyage intérieur. Alors, il s'agit d'un cycle romanesque assez à la longue existence. Il part d'un épisode réel, un pèlerinage tout à fait effectif qui mena au 7e siècle un moine chinois jusque dans la vallée de l'Indus où il alla étudier dans les grands monastères bouddhiques. Il en revint et fut un grand traducteur. Il s'agit de Xuanzang, un des personnages très importants de l'école notamment du réel de conscience dans le bouddhisme chinois. Mais le voyage réel de Xuanzang a donné lieu, par un espèce d'effet de boule de neige, à une élaboration légendaire très nourrie et suivie. Et alors, je ne retracerai pas les étapes, mais disons qu'après des premiers avatars au 12e, 13e siècle, voilà que vers le 15e, 16e siècle, nous arrivons à une élaboration tout à fait fantastique qui va faire de ce voyage un périple à la fois extrêmement précis, détaché, imagé, et aussi l'idée qu'il s'agit d'une longue métaphore justement du travail de l'alchimiste, de l'alchimie intérieure. Alors, nous suivons des personnages très hauts en couleur. Un des protagonistes principaux est un singe né d'un œuf de pierre. Et dans un prologue éblouissant de ce livre, ce singe va en fait se révolter contre l'ordre du monde et aspirer à la royauté. Alors il va découvrir une caverne justement dans des monts lointains et habités d'immortels. Il va devenir le roi d'un peuple de singes. Mais devenu conscient de sa mortalité, il va se mettre dans la quête du disciple, dans la quête de l'immortalité, et il va aller chercher les leçons d'un maître taoïste, qui porte un nom sanscrit, peu importe. Nous sommes à une époque extrêmement composite pour ce qui est des sources. Ce maître taoïste lui apprend, le reçoit avec une certaine réticence, mais lui apprend des magies efficaces, et notamment des possibilités de multiplication. Il va s'en servir pour renforcer sa royauté, chercher au fond des mers des armes fabuleuses. Il sera emmené aux enfers au bout de 500 ou 600 ans, mais descendu aux enfers, il raye son nom du registre de la vie et de la mort et menace les rois des enfers. Il affronte le ciel, il se verrait bien prendre le titre d'empereur de Jade, le roi des dieux. On envoie contre lui toutes les armées impériale, dont justement le dieu Orlang dont nous parlions tout à l'heure. C'est le dieu Orlang qui lâche contre lui son chien de chasse. On essaye de le dissoudre dans le four alchimique de Lao Tzu, le patriarche taoïsme, mais cet essai ne fera que renforcer encore sa puissance vitale. Et finalement, il ne pourra être vaincu que par le Bouddha en personne, qui l'emprisonne sous une montagne avec l'ordre d'attendre la venue du pèlerin qui doit se rendre en Inde et de l'y accompagner pour devenir son serviteur. Et à la suite donc de cette rencontre, lorsqu'il se fait le garde du corps du pèlerin, les compagnons, alors il n'est pas seul, il y aura aussi d'autres personnages tout aussi monstrueux, notamment un cochon comme personnage sera celui qui suivra toujours la pente des instincts les plus animaux et qui mettra les pèlerins en difficulté. Et les personnages partent pour une longue quête. Alors cette quête, elle n'est pas du tout personnelle. Elle est commandée, elle est encadrée par un autre voyage aux enfers. Un voyage aux enfers qui a été fait par l'empereur de Chine, Li Shengming, le deuxième empereur de la dynastie des Tang, qui a été convoqué devant la justice infernale, entre autres pour répondre du meurtre de ses frères. Il n'était pas aîné et il a fallu quelques opérations pour être dans les bons ordres de succession. Et il ne peut s'en racheter qu'en promettant justement une entreprise de salut universel que les dieux finalement transformeront dans le pèlerinage. Et donc le voyage commence commence à s'écouler. Et tout au long de ce voyage, la sortie de Chine est l'entrée dans un monde qui est sauvage, dangereux. Il y a des pays, il y a des monts, il y a des mers, il y a 81 épreuves qui attendent les pèlerins. Et il y a en chemin toutes sortes justement de démons qui cherchent à s'assimiler l'énorme puissance vitale que recèle le moine. Car ce moine bouddhiste, initialement, devient dans ce roman un parfait adepte taoïste qui a une telle qui a au cours de ses existences passées tellement fortifié son corps que les démons mâles cherchent à le croquer et les démons femelles à le violer. Et alors il rencontrera toutes sortes de démons qui sont souvent des animaux transformés. Vous voyez, on voit ici, j'en prends des illustrations du texte qui datent, qui vont du 17e au 19e siècle. Hein. Vous voyez les malheureux moines capturés par des divers animaux anthropomorphes. Là. Le roi des singes hein, vient toujours à la rescousse dans un et livre des combats à l'issue assez confuse car il ne s'en sortira jamais sans l'aide des divinités. Oui, donc toutes sortes de démons animaux. Et voilà un démon scorpion qui est un démon femelle. L'assimilation du danger que représente le corps des femmes aux êtres venimeux, le scorpion est un cliché de la misogynie chinoise de ces années-là. Et voilà, qui sera traité alors au 19e siècle vers des versions plus réalistes. Voilà, donc un petit peu cette. Alors, quelle est la leçon de ce livre? Alors, ce livre qui est parfois aujourd'hui traité comme en raison de toute sa fantaisie, c'est comme ça qu'il est vu aujourd'hui, comme un espèce de livre pour enfants qui sont mis des dessins animés, mais ce livre fut lu, disons, entre le 17e et le 20e siècle, pour ce qu'il est probablement, pour une très grande part, comme une description de la progression de l'adepte taoïste. Le singe, c'est le singe de l'esprit, qui est une vieille métaphore de l'agitation désordonnée de nos pensées que l'adepte se doit de capturer et de dompter. Le cochon, un cheval dragon, le moine lui-même, un autre compagnon, le moine des sables, sont assimilés à des parties du corps. Les cinq pèlerins sont un tout organique et les endroits qu'ils traversent sont également, on retrouve dans les paysages habités de démons, les lieux qui, dans les traités d'alchimie intérieure, sont également employés pour décrire les passes, les cols, les crêtes du paysage qu'est le corps humain. Donc la lecture pendant de ce livre censément bouddhique a été pendant très 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 longtemps en fait la lecture d'un périple en fait dans un monde ô combien proche puisque c'est le monde du corps et celui que traverse la dette taoïste. Alors maintenant je voulais dans un deuxième et dernier temps revenir à ce qui était mon sujet initialement annoncé, celui des apparitions des êtres surnaturels. Alors là, nous allons nous occuper plutôt du voyage en sens inverse. Et j'aurais voulu vous me baser là sur plusieurs, encore une fois sur des romans hein, de la. Peut-être que ce qu'on a qui ont circulé en Chine entre disons, le 14e et le 20e siècle, des romans qui étaient écrits en langue vulgaire, c'est-à-dire dans une langue qui se séparait de la langue classique, langue savante, langue de l'administration et des belles lettres, mais qui sont des textes assez fascinants, assez composites. On débat encore pas mal aujourd'hui de leur statut réel, entre la fantaisie, la distraction, mais aussi, par des lectures récentes, la présence dans ces textes de figures transposées de bien des rites, finalement, de la religion chinoise. Et la possibilité défendue par certains de mes collègues qu'il s'agit d'une variété un peu particulière des textes rituels et non pas de littérature de distraction. Donc il y a dans ces romans, en tout cas, ils se présentent assez, ils insèrent assez volontiers leurs récits dans un cadre qui va justement parler des allers-retours entre les mondes. Alors notamment, il y a ce qu'on, dans beaucoup de romans, des prologues. Et ces prologues se situent en général avant le début de l'action mais peut-être aussi avant le début du monde. Alors, il y a dans des conceptions cosmologiques chinoises anciennes l'idée qu'il y a eu une époque qu'on appelle le ciel antérieur, Xian-Tian, et que nous sommes actuellement dans l'époque du Ho-Tian, du ciel postérieur, et qu'il y a eu un état latent du monde avant qu'il commence à se démultiplier et que il commence à se développer. C'est le monde non encore manifesté par rapport au monde déjà manifesté. Et on trouve dans ces romans d'apparence populaire, en tout cas couchés dans un idiome populaire, une trace de cette conception-là. Je repense par exemple à, je vais donner un premier exemple qui est mon premier exemple est peu connu, le second l'est beaucoup. Mon premier exemple s'appelle le voyage vers le nord. Alors notez l'apparition du terme voyage, alors qu'il ne s'agit pas d'un récit de voyage à proprement parler, mais c'est l'idée que finalement toute traversée d'une vie, toute traversée du monde, de l'espace d'une vie est une pérégrination, est un voyage. Et donc au début de ce texte, nous sommes au ciel, chez l'empereur de Jade, qui est le roi des dieux, qui est le pendant divin de l'empereur de Chine, et l'empereur de Jade regarde les pays divins qui l'entourent du haut du ciel, et chez un autre dieu, il y a un arbre joyau, un arbre précieux, et il désire cet arbre, il aimerait bien l'avoir. Et aussitôt, un de ses assistants dit « Majesté, vous venez de commettre une assez sérieuse faute. Vous avez exprimé un désir. Et ce qui a été mis en branle ne peut plus être repris. Vous allez devoir envoyer une de vos âmes. » Alors, heureusement, la conception chinoise de la période de la personne est atonique, plurielle. Nous sommes faits d'une pluralité de constituants, y compris spirituels, et donc il y a plusieurs âmes. Donc une des âmes de l'empereur de Jade va être envoyée s'incarner, et c'est justement cette âme de l'empereur de Jade qui va, après avoir passé bien des parcours et d'ailleurs plusieurs existences, deviendra finalement le dieu John Wu, qui est un des principaux dieux exorcistes qui siège près de l'étoile polaire dans le ciel chinois. Le second prologue, alors là, d'un texte très célèbre que vous connaissez peut-être déjà, c'est Le rêve dans le pavillon rouge. Autrement appelé l'histoire de la pierre. Et si ce texte, ce grand roman du XVIIIe siècle, s'appelle ainsi, c'est qu'effectivement, il y a au début de ce livre une pierre. Une pierre qui se désole justement de n'avoir pas pu participer à la reconstruction du monde lorsqu'il a été réparé après l'attaque d'un démon antique. Et cette pierre laissée de côté a un désir du monde, et deux religieux de passage vont inscrire à la surface de la pierre un long récit, et c'est cela qui enclenche la narration du roman proprement dite. Le héros naît avec un jade dans la bouche, il est la pierre qui a voulu connaître le monde, connaître, qui a eu un désir et un élan, et qui à cause de cela va devoir traverser finalement toutes les passions de la vie humaine, avant finalement de ressortir du monde en allant vers l'état religieux à la suite des deux moines étranges qui l'ont visité dans l'état antérieur non manifesté du récit. Voilà donc un peu, vous voyez comme ce passage entre les mondes est omniprésent dans des récits de tout type. Hein. Le premier de ces deux récits dont je viens de vous parler est clairement un roman religieux, un roman hagiographique qui décrit la légende d'une divinité. Le second est le plus célèbre roman d'amour et de mœurs chinois. Ils ont ces traits communs qui montrent la prégnance de ce cadre, de cette idée des allers-retours. Qui évidemment est encore facilité par la possibilité apportée par le bouddhisme des réincarnations, mais qui joue finalement un rôle important, mais qui n'est pas tout à fait, je ne dirais pas fondamental dans beaucoup de conceptions préexistantes, en fait, à la possibilité narrative, évidemment, de projeter ces personnages sur plusieurs existences. Maintenant, puisque nous parlions tout à l'heure des êtres particuliers, notamment des êtres habitants l'espace montagnard, les immortels et autres bêtes sauvages, je voudrais m'arrêter aussi sur des personnages. Alors là, nous arrivons sur les thématiques des apparitions. Notamment, alors une figure également extrêmement connue, qui est la figure du renard. Alors le renard est un être xonien qui habite volontiers dans les tombes. Il a des affinités avec la mort. C'est un animal intelligent, hein, chez lui comme ailleurs. Et pour cela, il est capable de se mettre à l'école des taoïstes. Alors on trouve des renards de très longue date auprès des dieux de l'immortalité. Hein. Je vous rappelle, au début de mon exposé, je vous ai montré comment la reine-mère d'Occident, dans son mont Kunlun, a à ses côtés un renard à neuf queues. Alors ces renards, finalement, en se mettant à l'école des hommes, vont acquérir, pas tout de suite, il faudra en général 500, 600, 700 ans, il s'agit de très vieux renards, au pelage devenu parfois entièrement blanc, qui vont acquérir une possibilité de métamorphose. Et s'étant métamorphosés, ils vont finalement se mêler aux êtres humains, car en effet, la condition humaine est une condition critique. C'est elle seule qui permet de donner accès à l'immortalité. Finalement, une bête peut, commençant le travail alchimique, peut arriver jusqu'à la capacité de métamorphose, mais il lui faudra ensuite se mêler aux hommes pour les dernières étapes. Alors, il y a des renards patients et honnêtes qui continuent à pratiquer des exercices psychophysiques non déloyaux, mais il y a aussi des êtres qui seront la figure chinoise du vampire, qui vont séduire des êtres humains et, dans les jeux de l'amour, s'emparer de leurs fluides vitaux jusqu'au trépas du partenaire, afin de brûler les étapes vers la constitution de l'immortalité. Alors, je voulais vous... peut-on parler, lorsque ces personnages sont parmi les êtres humains, d'apparition ? La figure du renard est assez remarquable dans la mesure où le renard n'est quasiment jamais représenté comme un renard. Le renard métamorphosé n'a aucune raison d'apparaître comme un renard. Et finalement, les renards, bah, puisque dans beaucoup d'histoires romantiques chinoises, c'est la belle renarde sorcière qui est la protagoniste principale. Finalement, elle ne sera presque jamais décrite dans son animalité. Dans un très beau récit du 9e siècle, qui est une des premières très belles histoires d'amour de renard, la renarde qui a pris l'apparence d'une courtisane de la capitale se montre tout à fait exemplaire et fidèle à son amant. C'est une femme de mauvaise vie, mais elle est animée d'une haute vertu, alors que son amant est un lettré de bonne famille, mais peu fidèle et sans scrupules. Et lorsque finalement, trahie par lui, elle rencontre son animalité, en dépit de ses mises en garde, il l'a amenée sur le lieu où se trouve la chasse impériale, et les chiens, eux, ne se trompent pas sur sa vraie nature. Lorsqu'un chien lui a brisé les chines et qu'elle est redevenue renarde, laissant les habits de femme qu'elle portait comme une chrysalide accrochée à la selle du cheval, dit le narrateur à ce moment-là seulement, son amant, qui connaissait sa nature vulpine depuis toujours, enterre et pleure une bête au pelage fauve et sur la tombe de qui il se penche. Ces personnages-là sont des personnages, on peut dire, qui apparaissent dans le monde humain, mais sans presque jamais révéler leur nature initiale. Et il faut, pour qu'ils la révèlent, il faut qu'ils se laissent aller à certains travers humains, notamment l'ivrognerie et l'ivresse, qui, elles, laissent transparaître à nouveau la nature initiale. De la même façon, finalement, on a, lorsqu'un immortel visite ce monde, car il y a, alors là encore, nous sommes dans des constructions religieuses complexes, les immortels initiaux ne s'occupaient que d'eux-mêmes, mais finalement, une fois le bouddhisme du grand véhicule, entré en Chine, on va voir des figures d'immortels taoïstes qui font assez littéralement le vœu du bodhisattva, c'est-à-dire qu'ils veulent venir en aide aux êtres humains et leur transmettre le secret de l'immortalité. Et un personnage extrêmement célèbre dans la religion chinoise, qui est Lu Dongbin, dont je pense que mon collègue Vincent Bossard a dû vous parler l'an passé, si vous avez parlé d'écrits révélés, c'est un des grands maîtres de la révélation des écrits transmis par le pinceau spirit, notamment en Chine. Lu Dongbin est représenté comme venant très souvent dans le monde, venant se mêler aux êtres humains, mais une des constantes de ses récits est qu'il il ne peut être facilement reconnu. Il est plein de bonne volonté, il veut transmettre le secret, mais il se déguise. Et le déguisement, c'est un thème qu'on retrouve très fréquemment, et le déguisement est souvent une apparence extravagante ou ignoble. Et on peut parler de toute une galerie de personnages comme des saints crasseux, qui littéralement, parfois d'ailleurs, hein, dans une scène célèbre, Lu Dongbin est sale, ivre, et se gratte la crasse épaisse qui recouvre sa peau, en fait une petite boulette, et explique aux gens autour de lui qu'il s'agit d'une remède d'immortalité. Personne, évidemment, n'osera avaler, et mal leur en prend, ça l'était, et le zombie, avalant sa propre pilule, disparaît finalement dans les nuées. Donc encore des personnages qui ne se montrent guère. Alors finalement, si l'on parle d'apparition, alors évidemment, il y en est de toutes sortes. Ceux qui n'hésiteront pas à apparaître, c'est la troisième figure, celle que j'ai baptisée ici les dieux maîtres chanteurs. C'est-à-dire, qui sont ces personnages? Il s'agit d'humains ayant en général péri de malmort, connu une mort cruelle ou injuste. Et s'ils étaient des personnages forts et furieux, la mort n'a pas éteint leur fureur. Et justement, la fureur qui les habite est une bonne raison pour leurs âmes et une partie de leur personne de ne pas se dissoudre. Et emplis de rage, de venir auprès des humains et de les menacer. Et beaucoup de divinités chinoises ont commencé ainsi leur carrière, en exigeant des sacrifices sous peine de représailles, et les ayant reçus, finalement, au bout de quelques décennies, finissent par devenir des dieux tout à fait convenables, qui finiront par recevoir des titulatures de la part de l'empereur de Chine. Donc voilà voilà un autre type, si vous voulez, d'apparition d'êtres surnaturels. Alors j'aurais voulu, puisque le temps passe vite, j'aurais voulu peut-être sortir de cette présentation un instant pour vous montrer juste quelques images, parce qu'après tout il est éminemment question d'images aujourd'hui. Si je retrouve le bureau, pardon. Attendez. Oui, je cherche le bureau du. Oui.
Il était dans ce coin-ci, là, je me souviens pas. Ouais, c'est parce que la taille de l'écran qui a dû déplacer les trucs. Ouais, vous avez. Il va être ici.
Voilà. J'aurais voulu peut-être juste pour terminer vous montrer quand même la manière dont sont représentés justement les. La manière dont l'art, l'illustration notamment des livres, va représenter justement les apparitions. Alors non seulement les apparitions d'êtres surnaturels, mais également les rencontres qui se font lors du rêve. De toute façon, le rêve est vu dans la physiologie chinoise comme un moment où certaines des âmes justement du dormeur se voyagent et rencontrent éventuellement à ce moment-là d'autres êtres. Alors nous parlions de montagne, eh bien la deuxième figure qui habite la teinture montagnarde des chinoises, et bien sûr aussi la figure du nuage. Et nous avons une omniprésence de la représentation des nuées qui deviennent finalement le signe de la représentation des mondes autres. Alors non seulement des mondes célestes, c'est assez banal et ça en vient probablement, mais alors je vous passe sans commentaire et de manière un peu peut-être nauséeuse quelques-unes de ces images qui sont empruntées à divers styles et genres, où vous voyez que le ciel est peuplé de nuages, mais les enfers le sont aussi. Et le rêve, finalement, se passe dans une volute nuageuse. Et c'est quelque chose dont je n'ai pas le... Ici, nous sommes ici plutôt dans le monde infernal. Vous voyez ici un portrait qui représente les gens péris de malmort, le portrait des femmes mortes aux encouches dans les temps passés, qui sont des âmes malheureuses. Ou alors, au contraire, l'apparition divine. Voilà, je vous parlais d'un dieu maître chanteur, le dieu Guan Yu, qui fut un général du 3e siècle, exécuté en marge d'un champ de bataille, qui est devenu l'un des plus grands dieux chinois au fil du temps. Vous voyez, les enfers sont également habitués de nuages. Vous voyez, voilà justement le voyage de l'empereur Trang aux enfers dans la pérégrination vers l'ouest. Et ce sont également, effectivement, lorsque les divinités apparaissent, c'est également cette figure de la nuée. Voilà. Je ne sais pas si cette c'est une manière peut-être de cette voilà par exemple une divinité qui va être convaincue de cesser de se dépouiller de ses envies démoniaques pour devenir un dieu au service du bien par un prêtre qui le convainc. S'il est et l'apparition d'un fantôme, parfois très discrètement, juste un petit tapis de nuages sur les pieds, pour montrer son appartenance à un monde, à un autre monde, oui, à côté d'un personnage hanté, ou même. Ou parfois, et c'est ainsi, alors je vous défile, et c'est ainsi aussi que sont représentés, alors dans les illustrations qui accompagnent des légendes de divinité, c'est ainsi que, non j'ai pas le temps de m'arrêter sur tout cela, c'est ainsi que vont être représentées aussi les interventions divines, voyez, qui sont faites souvent, voilà là nous sommes dans ces images, sont des images là, qui illustrent la légende d'une divinité, de ses interventions, et vous voyez qu'il est à la fois, il va naître par une irradiation, mais un personnage méditant, on retrouve toujours la figure de la figure nébuleuse, et voilà la figure du rêve, hein, un rêve fait par le moine Trang sur la route où il rêve du roi des singes qui dort à côté de lui en réalité, et ces volutes qui vont servir à illustrer l'expérience onirique, qui montre un roi qui crée une continuité entre l'apparition d'un fantôme, l'apparition d'une divinité et tout ce qui peut se passer en rêve. Je choisis un peu au hasard d'une présentation qui n'a pas été faite, vous le devinez, pour cette occasion, mais que j'avais pensé vous extraire quelques images. Sommes-nous dans des espaces imaginaux à la Corbin, sommes-nous dans des choses peut-être beaucoup plus banales. J'espère que cette petite excursion chinoise ne vous aura pas trop déçu ni trop écarté de ce qui est votre cheminement aujourd'hui, c'est parce que j'ai entendu pour la première partie de la matinée, mais si vous avez des questions, des envies de discuter de ce que je viens de vous montrer, ce serait avec plaisir. Thank you.